Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
La musique d'un étonnant percussionniste qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires. Il n'est pas qu'un rythmicien hors pair, il est aussi un créateur qui tente des expériences, quitte à susciter l'étonnement, l'interrogation et la surprise. C'est Miles Davis qui sentit très tôt l'esprit inventif et réactif de ce multi-instrumentiste. Il s'appelle Minu Sinelu et il est notre invité.
Up and come. Hear me as the sun. Hey, hey, yo, way before then. Rise up and come.
C'est un aventurier que nous avons la chance d'avoir notre micro aujourd'hui, Minu Sinelu. Merci d'être avec nous.
Merci de l'invitation. Merci, toi.
Quand je dis aventurier, je le pense vraiment. Car vous avez tout au long de votre épopée cherché à vous confronter à des musiques venues de tout pays. Cet été par exemple, on vous a vu aussi bien avec le guitariste français Biréli Lagren qu'avec le trompettiste norvégien Nils Petter Molvær. D'où vous vient cet appétit pour les musiques et les musiciens venus d'ailleurs?
Je pense que ça vient, si on veut vraiment l'expliquer, j'ai fait le test d'ADN récemment. Et alors, quand on voit les résultats, ça s'explique.
Tout à fait.
Mais bien avant que ça existe, j'ai toujours ressenti un immense intérêt pour toutes ces musiques. J'avais partout où il y avait de la musique, j'essayais d'y être. Donc quand on est très jeune, on peut se faufiler, on rentre. Et j'imagine devoir les yeux écarquillés. On m'a filé un instrument pour faire le bœuf avec des gens d'Afrique du Nord, beaucoup bœufaient avec ces gens-là. Bien sûr, de ma famille de Martinique, comme j'ai du sang breton, il y a tous ces côtés aussi celtiques qu'on retrouve. De l'autre côté, alors l'Espagne, bien sûr, on va parler au flamenco à côté, le fado, le Portugal, le Brésil qui n'a pas rêvé. en écoutant la bande-son de Orfeo Negro. Et le jazz, bien sûr, tout se rejoint. Je pense que tout se rejoint, et de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus.
Mais de quelle source musicale vous sentez-vous le plus proche ?
Oh, c'est impossible, ça dépend. Quand je baignais dans le gospel, c'était bien sûr la source la plus proche. Quand j'étais avec Miles Davis, déjà, c'était une fusion incroyable. Bien, il y avait du jazz, du blues, mais surtout de l'espace et de la générosité et de l'honnêteté, je dirais. Donc ça, ça se retrouve dans toutes les musiques.
Est-ce que les percussions s'adaptent à toutes les rencontres ?
L'ouverture d'esprit et de cœur s'adapte à toutes les rencontres, quel que soit l'instrument.
Mino Sinelu, on vous connaît grâce à votre aventure avec Miles Davis au début des années 80, mais on parle moins de ce qui s'est passé avant. Que faisiez-vous à Paris avant 1979 ? Avec qui jouiez-vous ? Où jouiez-vous ?
La liste est longue aussi. Et je faisais campagne beaucoup de l'autre côté de l'océan. Parce que bien sûr, les artistes, donc on peut dire américains, mais ils sont de l'autre côté de l'océan, ne connaissaient pas la plupart des artistes avec qui j'avais travaillé. Bon, je parlais de Claude Nougaro, ils ne le connaissaient pas là-bas. Le groupe Perception, le groupe Gong, Alan Holdsworth avait un nom parce qu'il avait joué avec Tony Williams. D'ailleurs, on a joué ensemble dans Gong et on préparait un nouveau groupe. Je jouais d'ailleurs la batterie dans ce groupe. Donc il y avait Alan Holdsworth, Gordon Beck, on a oublié. Gordon Beck aussi, peu de gens le connaissaient de l'autre côté. L'océan était une grande barrière, je dirais. Il y avait tout ça, il y avait aussi, avec mes frères, on faisait un groupe, il y avait Chute Libre, le début du jazz rock. Au tout début, bien avant que ça s'appelle Chute Libre, on faisait des covers de tout ce qu'on aimait. Moi, je suis fan, par exemple, de Frank Zappa depuis l'âge de 10 ans. Petit à petit, on a créé un répertoire, puis j'ai joué avec le groupe Moravagine. Et à un moment, il y a eu la fusion des deux groupes. Donc après le deuxième clavier qu'on a eu dans Chute Libre, le premier n'était d'ailleurs absolument pas un pianiste, il était joueur de synthétiseur. Une chose, on n'était pas prêt à l'époque, en 74, 75, on voulait quelqu'un qui fasse des accords. Lui nous a ouvert la voie, je sais que c'est lui qui m'a parlé la première fois de Weather Report. Et il avait un synthétiseur, il faisait des sons, c'était assez étonnant, mais on n'était pas prêt pour ça. Donc petit à petit, le répertoire s'est créé. Et je me rappelle que Bernard Lavillier devait jouer pour un de ses concerts et m'a demandé si le groupe voulait jouer. Et le groupe n'était pas chaud. Je dis, écoutez, moi, je fais déjà des duos avec lui. Il est cool. Allons-y, jouons. Et donc, le son lui a plu puisqu'il a pris Patrice aussi. Il a pris Éric Letourneux, qu'il a gardé longtemps, d'ailleurs, dans un de ses groupes. Et c'est le son qu'on entend un peu dans Les Barbares. C'est une partie de Chute Libre, on dira.
Et si nous écoutions le premier album de Chute Libre ? Voici un extrait de cet album, Black Sweat. Le groupe Chute Libre en 1977. Deux ans plus tard, Mino Sinelu, vous partez vous installer définitivement aux États-Unis et là tout s'accélère. Est-ce que vos premiers pas dans la grande famille des George Benson, Wayne Shorter, Kenny Barron, Miles Davis ont été faciles ?
Je ne sais pas comment répondre parce que tout avait un sens. Tout a toujours eu un sens. C'était les difficultés, les choses plus faciles. Ça faisait partie de cette passion et ça en fait toujours. Qui me dévore depuis toujours, donc c'est Je sais pas, je vois pas. Je sais pas, les difficultés sont... Kenny Barron, on s'est tout de suite bien entendu. Je l'ai rencontré en même temps que j'ai rencontré Stan Getz. C'était drôle d'ailleurs que Stan m'a dit « J'ai beaucoup entendu parler de toi, Mino, mais écoute, avec mon batteur, c'était Terry Lynn Carrington, j'ai vraiment pas besoin de percu. » Et on a rigolé. Je comprends. Quoi qu'on ait joué souvent ensemble, Terry Lynn et moi, mais enfin, c'était drôle de la part de Stan de dire ça. Donc on s'est rencontré avec... Kenny, on a fait beaucoup de choses ensemble dans certains de ses projets, et puis jusqu'au projet de duo que j'ai réalisé, et il m'a fait une grande confiance et je l'ai emmené dans des eaux plus que troubles, donc c'est peut-être plus lui qui était en difficulté que moi, mais parce que c'était quand même quelqu'un d'ouvert mais de très traditionnel dans sa réputation. Et c'est vrai qu'on a tout fait, quoi. Je lui ai fait jouer de la contrebasse, du synthétiseur.
Il vous a fait confiance.
Complètement.
Et Miles Davis, qui vous a fait rencontrer Miles Davis, au fait ?
Le destin. Le destin m'a fait rencontrer Miles Davis. Être au bon endroit, au bon moment. Je savais que j'allais faire des rencontres si je bougeais. J'avais fait pas mal de rencontres en Europe. En France, j'en ai fait beaucoup. Je suis retourné aux Antilles. J'ai vécu en Angleterre. J'ai un peu baroudé. Mais à New York, depuis la première fois en 76 où je suis passé, je savais que c'était là-bas que certaines rencontres se feraient. Et donc, elles se sont faites. C'était le destin, puisque deux semaines avant, j'étais le batteur d'un groupe de soul, et je leur ai demandé de trouver un batteur. Ils ont cru que je quittais le groupe. J'ai dit non, je vais jouer des percussions. Il m'a dit, mais tu joues des percussions ? J'ai dit, oui, oui. Ils m'ont fait confiance. Et donc, à Mickers, au club Mickers, le club mythique, il y a quelqu'un qui était au premier rang et qui ne me quittait pas des yeux pour le deuxième set. Bien sûr, je ne l'ai pas reconnu. Et voilà, il m'a pris le bras. Enfin bon, ça a duré une demi-heure. Enfin, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que malgré que je ne l'ai pas reconnu, et le manège a duré vraiment bien 10 minutes. Il m'a demandé mon numéro, je suis descendu. Enfin bon, 20 minutes après, je suis remonté. Il était toujours là. Donc c'est important, c'est qu'il a vu, il a senti quelque chose. Je veux dire, sa passion pour la musique est plus forte que tout, même que son ego. Donc il y a plein d'histoires sur Mars, mais celle-ci, elle est vraie aussi. Et c'est vrai qu'il s'en foutait que je ne le reconnaisse pas. Il a senti un truc et c'est tout.
Je vous présentais comme un aventurier en début d'émission. Est-ce que vous diriez que Miles Davis était lui-même un aventurier ?
Oui, c'est surtout un humain, un grand humain. Un grand humain qui avait une grande intelligence et une grande vision et qui a vu des choses que je ne verrai jamais, j'espère. Et dans les années 60, quand même, c'était quelqu'un qui était assez franc, une attitude assez franche et forte contre toutes les horreurs qui se passaient là-bas. Donc, et ailleurs d'ailleurs, moi je l'ai entendu parler politiquement avec peu de mots, mais contre l'apartheid, c'était quand même assez virulent et très très juste. Donc c'est un grand monsieur qu'on a perdu en 91.
Mino Sinelu, je ne résiste pas à l'envie d'écouter Jean-Pierre en public à Boston le 27 juin 1981. Voici Jean-Pierre donc ouais. En concert. Super. Jean-Pierre, tiré d'une comptine, Dodo l'Orfando par Miles Davis à la trompette, avec Mike Stern à la guitare, Marcus Miller à la basse, Al Foster à la batterie, Bill Evans au sax, et notre invité dans l'épopée, Mino Sinelu aux percussions. Quel groupe quand même.
C'était bien parce qu'il y avait de l'espace. Je crois que j'ai appris dans ce groupe que, en écoutant Miles, c'est que c'était pas seulement ce qu'on jouait, c'est aussi ce qu'il y avait dans ce qu'on ne jouait pas. Parce que lui, physiquement, au début, n'était pas en mesure de jouer comme avant, puisque ça faisait 6 ans qu'il avait arrêté sans vraiment s'entraîner. Et la trompette, on sait que c'est un instrument, comme le violon, extrêmement ingrat. Si vous arrêtez, c'est... Malgré ça, c'était... Je ne pense pas qu'on ait triché sur le public à cette époque-là. Même 2 ans après, quand il commençait à retrouver sa technique, Miles, c'était Miles, quoi qu'il arrive. Et il dirigeait le groupe en silence ou avec des sons, des notes. Et souvent, avec une seule note, il calmait notre enthousiasme. Des fois, c'est vrai qu'on était tellement heureux, il y a des choses qui se passaient, quand on était trop bavard. Et, sans nous le dire, juste, il y avait une note qui venait, on comprenait tous que c'était là que ça se passait. Donc, j'ai toujours aimé ressentir ça dans toutes les musiques, mais ça s'est passé très fortement avec Miles, ça a renforcé cette vision.
Miles Davis n'aimait pas se retourner sur le passé. Et vous, est-ce que vous considérez qu'il faut toujours aller de l'avant et faire table rase du passé?
Ouais, aller de l'avant, ça veut dire aussi ne pas se reposer sur ses lauriers, je dirais. Ce serait là où je serais complètement d'accord. Il est vrai que je change très souvent, tous les 2-3 ans. Enfin, c'est pas régulier à ce point. Je change, j'ai changé ma façon de jouer, d'écouter. Et ça se ressent dans les instruments. J'ai d'autres inventions, d'autres sons que je combine. Moi, j'aime assez les choses nouvelles, les nouveaux groupes, tout ça. C'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais d'écouter des choses de retour aux sources, c'est aussi toujours, ça nous rend humbles de toute façon. Mais j'aime bien regarder devant, c'est vrai.
Quand je regarde votre parcours, Mino Sinelu, de Weather Report à World Trio, en passant par vos albums, je pense à Quest Journey, par exemple, en 2002, il y a toujours ce désir de surprendre. Un musicien n'a pas le droit de se reposer donc sur sa notoriété et doit toujours prendre des risques.
Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais j'adore, il y a des choses très conventionnelles que j'apprécie, mais c'est vrai, ce qui m'inspire plus, c'est vrai, c'est des choses que je connais pas, et donc nouvelles et différentes. Ouais.
Est-ce que c'est un risque de jouer avec quelqu'un comme Niels Peter Molvær, par exemple?
Le risque est de jouer devant le public, avec Niels ou quiconque. Et la confiance est là. Je pense qu'on s'entend très bien. Et on est vraiment excités comme des enfants avec ce projet. Et on s'embrasse, on se serre dans les bras, on dirait, et on se tape dans les mains. Et vous avez vu tout à l'heure ce qui se passait, il y a une grande connivence. Nous sommes deux amoureux de l'espace, du groove. Et il rigole et on y va.
Comment vous présenteriez Niels Peter Molvær pour quelqu'un qui ne le connaît absolument pas?
Moi, je ne sais pas, il a un peu le physique d'un bûcheron mal léché. Et c'est un cœur sur deux jambes. Donc... c'est quelqu'un qui a une grande musicalité, qui s'intéresse aussi, qui connaît bien aussi certaines musiques classiques. Et
c'est un pionnier dans l'électro-jazz ou ce qu'ils appellent le new jazz.
Bah, c'est un pionnier dans les sons. Je crois qu'il fait des sons à la trompette. Les effets sont un instrument qu'il maîtrise parfaitement. Pour moi, c'est un pionnier. Mais on ne perd pas, quelle que soit la dose d'électronique, on ne perd jamais le côté organique, c'est ce qui me plaît.
Le 17 juillet dernier, vous donniez un concert ensemble dans le cadre du Marseille Jazz des 5 continents. On en écoute un extrait et nous reprenons cette passionnante discussion dans un instant.
Thank you.
Enregistré par nos équipes techniques représentées aujourd'hui par Laurie Plisson, c'était un extrait du concert de Niels Peter Molvær et Mino Sinelu le 17 juillet 2019 à Marseille dans le sud de la France. Mino Sinelu, j'entends un petit peu le son de Miles Davis dans la sourdine de Niels Peter Molvær. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, est-ce que vous ressentez comme une vibration Miles Davisienne d'autrefois lorsque vous jouez avec ce trompettiste norvégien?
Je crois que c'est impossible depuis le retour de Miles dans les années 80, de ne pas être associé avec lui et son son. Dès qu'on met la sourdine, vous le dites en français,
ouais,
la mute en anglais, sur la trompette. S'il y a un beat qui est un peu moderne et on entend, on dit, oh, c'est Miles, quoi. Avec un peu de sensualité, c'est impossible de ne pas associer à Miles.
Je vous disais ça parce que tout à l'heure, en préparant le concert et en discutant avec Niels Peter Molvær, vous écoutiez à un moment donné un extrait d'un de ses solos et vous lui avez dit « Ah, j'ai l'impression d'entendre mon ancien boss ».
Ah oui, oui, c'était... Il n'a pas peur de l'espace. Je pense qu'il a beaucoup de soul. Et c'est un très grand trompettiste qui peut aussi envoyer du bois s'il y a besoin. Mais il n'a pas besoin de faire flasher sa technique. Et il est vraiment, vraiment branché dans les sons. Je pense que si Miles l'avait rencontré...
Ils auraient fait quelque chose ensemble?
Je ne sais pas, mais il a piqué 2-3 effets, je pense. Parce que c'était très, très curieux.
Que ferait Miles aujourd'hui? Est-ce qu'il vous aurait suivi dans vos aventures musicales très diverses?
Miles m'a toujours poussé. Je n'ai pas beaucoup écouté ses conseils. Il disait vraiment, Mino, en fait, son message, c'était vraiment, pense à toi, pense à toi. Parce qu'il savait que j'étais leader de groupe, mais il savait aussi que je pouvais faire tenir une rythmique ou mettre des couleurs au service des autres. Et il insistait, sort tes trucs, Mino, sort tes trucs. C'est vrai que ça a pris longtemps, mais je lui ai fait un petit hommage. Et oui, il a toujours été très encourageant sur ce que je faisais. Il aurait souhaité que je fasse plus, c'est sûr. J'aurais aimé qu'il soit là, bien sûr, pour écouter officiellement. Il a écouté certaines musiques, mais il nous manque à tous. Hein, il nous manque.
Qui vous a fait prendre le plus de risques dans votre carrière?
Moi.
Vous-même?
Ben oui, parce que si on ne se met pas en danger, on n'apprend pas. Et la facilité, le confort, je trouve ça ennuyeux dans ce que j'essaie de faire et dans ma vie. Donc le risque, c'est soi-même.
Je pensais que vous me diriez Joseph Winhull. Je pensais que vous me diriez Michel Portal. Ce sont des gens qui prennent énormément de risques et qui poussent forcément leurs musiciens à faire de même.
Oui, mais on les pousse aussi à prendre des risques. Les risques, ce qui était intéressant avec Joseph Winhull, je crois que ce qui l'a surpris le plus, c'est que je connaissais les musiques qu'il connaissait. Iman Bi, Mino, un truc, un groove bien africain, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, mais tu parles d'où? Tu parles du nord, de l'ouest, de l'est? On est plutôt guidé, plutôt. Et jusqu'à temps qu'il rencontre, bien sûr, Salif et l'équipe. Mais on avait donc, encore une fois, on était là pour jouer. Omar, Victor et moi, c'était un Weather Report qui était, le dernier Weather Report était assez funky et assez costaud, je dirais.
Mino Sinelu, nous pourrions continuer à deviser ensemble pendant des heures, tant votre épopée est riche. Il suffit de citer quelques noms pour comprendre combien votre voyage musical est sans fin. On vous a vu avec Stevie Wonder, Salif Keita, Curtis Mayfield, Marcus Miller, Dizzy Gillespie, Tracy Chapman, etc. etc. Qu'avez-vous à l'esprit ces jours-ci qui pourrait encore nous étonner dans les mois à venir?
J'espère Sula Madiana, les deux îles. Sula, c'est l'île d'où vient Niels, et Madiana, c'est l'île où mon père était né, Martinique. On prend un risque quand même avec ce duo. C'est un duo percussion, voix, trompette, guitare. On ne sait plus qui joue quoi. Au bout d'un moment, il y a des loops. Des fois, il n'y a rien.
Il y a des loops et peut-être des loupés parfois aussi.
De toute façon, c'est garanti. C'est dans le contrat. Mais si on fait des loupés à temps régulier, ça devient un arrangement.
Bien vu.
Mais non, j'espère, bien sûr, c'est un bon sentiment, mais c'est à double tranchant. C'est vrai qu'on attend que, officiellement, je revienne avec des projets sous mon nom. OK. Là, on a Ordre Alphabétique, Sulla Madiana, Sine Lumolvaer. Il y a un autre projet, Ordre Alphabétique, c'est différent. J'ai 24 morceaux mixés, je sais pas pourquoi, j'en fais d'autres, et je sais, mais je promets d'arrêter tout et de sortir tout, voilà,
bientôt. C'est vrai qu'on attend quand même depuis quelques années un album de Mino Sinelu.
Oui, mais appelez-moi, je sais plus comment ça marche, j'attends les maisons 10 il y a si longtemps, mais non, vraiment, ouais, c'est vrai que ça me manque aussi, donc... me mettre en danger, c'est peut-être ça le plus grand défi, à la réponse à ta question de... au préalable. En tout cas,
le plus grand défi, c'est de sortir un nouvel album.
Peut-être ça va être mon prochain challenge, ouais, c'est vrai.
Merci beaucoup, Mino Sinelu. Merci. Et surtout, ne changez rien.
Ben, merci à vous, et à RFI, bien sûr, et à l'épopée.
On se revoit. Mito, à Marseille, à New York, tout côté, tout beau, à Marseille. À New York, tout côté, tout beau. Ça va toujours, non? Ouais. Ok, vous êtes chaud, donc...
C'est sur ces notes inspirées, enregistrées à Marseille le 17 juillet dernier dans le cadre du Marseille Jazz des 5 continents que nous allons nous quitter. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation percussive du jour et mes salutations à Laurie Plisson pour les prises de son à Marseille. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.